Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Le grand live, spécial fête du court-métrage, c'est sur Séances Radio avec Bruno Kras et ses invités en direct du Carreau du Temple à Paris.
Bienvenue sur Séances Radio, sur ces séances radio exceptionnelles puisque nous sommes à la fête du court-métrage pour ces 4 jours au Carreau du Temple. Cette immense fête qui défend le court-métrage, qui parle du court-métrage, qui parle de comment on fait les courts-métrages. Et vous allez voir tout de suite, immédiatement, avec deux invités exceptionnels, comment le court-métrage peut rentrer dans les vies de chacun. Et c'est très important parce que c'est une manière de faire du cinéma qui est peut-être un peu plus facile, mais on n'en est pas sûr, on en discutera avec nos invités, que de faire un long-métrage. Mais en tout cas, c'est le début et c'est un art de l'image qui est fantastique. Alors cette fête, vous le savez, se déroule dans 3 milieux dans toute la France. Il y a des événements partout, évidemment ici au Carreau du Temple, en plein Paris, mais il y a des villes ambassadrices, il faut le rappeler, Paris, Lille, Angoulême, Rennes, Saint-Étienne et d'autres villes, et puis des villes phares. Dans un temps, on se retrouve et vous allez voir comment tout est improvisé, comment on reçoit ici un invité exceptionnel ce vendredi 16 dans cette fête du court-métrage. À tout de suite.
La fête du court-métrage, en direct sur Séances Radio.
À mes côtés dans cette émission de séance radio exceptionnelle puisque nous sommes à la fête du court-métrage, Brigitte Psy, qui est réalisatrice et notamment L'Astragale, mais elle a fait d'autres films aussi, et Khaled. Et vous allez voir que le court-métrage est assez extraordinaire, il peut faire des miracles puisque Khaled est sorti de l'endroit où il était, il y retournera ce soir ou demain, et vous allez nous raconter son histoire qui est incroyable, Brigitte Psy, votre qui est réalisatrice et qui connaissait Khaled depuis très longtemps.
Oui, je connais Khaled depuis 1997. On s'est rencontrés à la prison de la santé où je mettais en scène un spectacle dans le cadre des deuxièmes journées de la justice. Il n'y a pas eu de troisième journée, mais voilà. Et Khaled participait à ce projet de théâtre et de cinéma déjà à l'époque. L'image était importante dans le projet. Mais je vais le laisser parler et vous raconter pourquoi il est ici aujourd'hui peut-être.
Oui, alors Khaled, vous avez fait un court-métrage.
Oui.
Donc vous êtes libre aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui seulement.
Oui, dans le cadre du court-métrage, il y a deux réalisateurs qui sont venus et qui nous ont proposé une heure d'archives, une heure de...
Là, vous étiez détenu ?
Oui.
Oui.
Une heure d'archives de l'INA.
Ouais.
Et
documents de l'INA sur lesquels vous avez dû travailler.
C'est ça. Nous, comme tous ceux qui ont fait des courts-métrages, c'était les mêmes images pendant une heure, sans son.
Ouais.
On devait se les approprier. Et essayer de faire un film et surtout essayer de faire passer quelque chose de nous quoi, dans ce court-métrage.
Donc il s'appelle comment ?
La mélancolie d'un dimanche matin.
Voilà, j'avais oublié le titre mais j'ai vu le film. La mélancolie d'un dimanche matin. Donc ce sont des très belles images. Donc il y a eu aussi un travail de montage. Mais vous connaissiez ce travail ? Vous l'aviez appris ?
Oui, parce que je fais partie d'un atelier vidéo. Et justement on travaille, on monte des films, on tourne des vidéos. Et sur les rushs après on monte des vidéos aussi. On fait des diaporamas aussi. Grâce à l'atelier de formation vidéo, journaliste.
Alors, il faut juste préciser que c'est un projet qui est soutenu par l'INA, par le CNC, qui a lieu dans différentes prisons. Là, Khaled vient de la prison de Lille, hein, à Nolin, et que c'est un projet qui est soutenu, enfin dirigé en partie par Joseph Cesarini, dont la production s'appelle Lieu fictif. Donc les films durent, pour tous les détenus, les personnes sous main de justice, 4 minutes.
Entre 3 et 6 minutes.
Entre 3 et 6, minutes.
Et 6 voilà. D'accord.
Entre 3 et 6, c'est un choix.
Et alors, ce qui m'a frappé dans la mélancolie d'un dimanche matin, où on voit des très belles images, alors il faut voir ce court-métrage, on pourra le voir un jour, j'espère, peut-être.
On espère, on
peut-être
sait pas.
Peut-être dans un DVD au milieu d'autres courts-métrages.
Ouais.
Ce qui m'a frappé dans la voix off et dans les mots qui s'inscrivent sur ces images, c'est justement les mots. Les mots MOTS, ce sont les mots qui, en détention, vous sauvent ?
Oui, ma rencontre avec l'écriture a été comme une évidence. Mm.
Comme une délivrance aussi.
Comme une délivrance.
Délivrance, c'est un des mots que vous citez dans le film.
Tout à fait, oui, puisque j'étais enfermé et c'était le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir justement survivre et continuer d'exister. C'était important pour moi et grâce aux mots, j'ai réussi à me transcender.
Et alors, vous avez fait du théâtre avec Brigitte Lecy. Là, c'est l'image.
Oui.
Ça vous donne envie de toucher et d'aller encore plus loin dans ce travail des images.
Oui, bien sûr, bien sûr. D'autant que c'était la première fois que je m'essayais aux trois moyens d'expression, qui sont l'écrit, l'image et le son. Parce qu'on parle de l'image et de l'écrit, mais il y a aussi le son. Et je découvrais, moi, l'image et le son. Je maîtrisais un petit peu l'écriture. Mais en associant ces trois moyens d'expression, ben voilà, je me suis aussi découvert, je me suis un petit peu aussi découvert, puisque j'ai essayé de faire passer un petit peu de moi au travers de mon court-métrage. Et je ne pensais pas qu'avec une image et un son, on pouvait aussi transmettre des émotions. Je le savais par les mots, puisque voilà, les mots, voilà, c'est mes alliés. Mais par l'image et le son, non. Alors que le son, effectivement, on peut aussi faire passer des émotions par le son, par l'image, bien sûr, mais par le son aussi. Pas si vous avez vu dans le court-métrage.
Bien sûr, bien sûr. Il y a du son.
Voilà.
Et comment vous avez choisi vos images? Il y avait pas mal d'images d'archives. Comment c'est venu? C'est venu comme ça, de façon instinctive?
Alors, comment on a procédé? Les réalisateurs, après nous avoir fait visionner leurs images des archives de l'INA, on devait choisir trois images. Trois images qui nous avaient parlé.
Ouais.
Et à la fin, le premier visionnage de l'INA s'est fait sans son. On avait que l'image. Et ça m'a déstabilisé. Et je pensais que j'étais incapable de pouvoir créer quelque chose. Puisque voilà, je me suis retrouvé avec des images qui défilaient en kaléidoscope, mais j'avais pas de son, j'avais pas d'écriture. Ils nous ont demandé de sélectionner trois images. J'en ai sélectionné trois. Et on nous a demandé de les caricaturer, d'en faire une caricature.
Lesquelles vous avez sélectionné?
Alors moi, la première que j'ai choisie, c'est l'image d'Aragon avec les deux mains. Donc j'ai pris mes mains et puis j'ai fait un croquis. Et effectivement, quand j'ai associé mes trois images, le bateau, et puis le petit enfant qui pousse le bateau,
oui.
Et ben là, tout de suite, il y a eu un déclic. J'ai pensé à l'exil avec le bateau. C'était plus le jouet dans le prolongement de la main du petit garçon, ouais. Mais moi, c'était l'exil,
ouais.
Puisque je suis parti à l'âge de 5 ans. Et donc, voilà, j'avais envie de parler de l'exil, de l'enfance,
ouais.
Mais aussi d'un cheminement qui s'est fait en moi, de mon rapport. Écriture aussi.
Ouais. Il faut expliquer à nos auditeurs. Reda Kateb, qui est un acteur, oui, j'hésite pas à le dire, il n'entend pas, donc il ne va pas rougir, qui est un acteur que vous connaissez exceptionnel, qui était justement dans l'Astragale réalisé par Brigitte Sy, qui était là à côté d'Ella Pecti, qui prépare un superbe film qui va s'appeler Django Reinhardt et qui s'est entraîné à la guitare pour pouvoir jouer ce personnage. Bref, c'est un acteur que j'adore. Et ben, il vient d'arriver dans ce studio, donc Reda, asseyez-vous.
Micro. Avec Reda Kateb, on est allé assister à la représentation d'une pièce de théâtre à laquelle participait Raled à la centrale de Poissy à l'époque. Il était à Poissy. Et c'est comme ça que Reda et Raled se sont rencontrés. Et donc quand j'ai dit à Reda que Raled était là, dehors, pour la première fois depuis 20 ans, il a tout de suite voulu venir le saluer.
Reda, bonjour.
Bonjour.
C'est bien que vous soyez à la fête du court-métrage.
Ben, c'est bien, je suis très très content de revoir Khaled et de revoir Brigitte, mes amis. Et puis ouais, j'avais rencontré Khaled. Moi, j'avais assisté à la représentation de Caligula,
ouais.
À Poissy, et j'avais été vraiment très marqué quoi, par ce travail, par la résonance aussi qu'il y avait entre ce texte, la manière dont il était porté dans ce lieu si particulier. Et puis ensuite, on avait organisé une projection de Loin des Hommes, un film où j'avais joué, on s'était revus. Et je suis très content de voir Khaled à l'extérieur, si je puis dire.
Alors j'étais en train de questionner Khaled sur le pouvoir des mots. Ce sont les mots, ce sont l'écriture, les mots, le théâtre, maintenant le montage de ce petit film, Mercredi dernier dimanche matin, qui l'ont sauvé. Avant d'entrer en prison, les mots vous manquaient? La violence, elle est venue parce que les mots n'étaient pas là?
Non, disons que les mots me manquaient, je me servais déjà des mots, hein, je me servais des mots, mais juste pour des correspondances épistolaires, voilà, pour décrire mes propres émotions. Et puis petit à petit, grâce à la poésie aussi, puisque j'écris de la poésie, ben voilà, ça m'a une forme de parabole intérieure. Les mots sont devenus une forme de parabole intérieure. Et Et ils permettent aussi, dans des endroits comme celui où je suis, de tirer un peu le meilleur de nous-mêmes, de mieux appréhender les autres, le monde, et aussi soi-même, et surtout soi-même.
Je remarque que dans votre court-métrage, vous n'avez pas parlé de libération, vous avez parlé de délivrance. C'est pas pareil, hein.
Oui, c'est tout à fait, bien sûr.
C'est pas pareil. C'est quoi la différence ?
Ben pour moi, la délivrance, elle vient de l'intérieur. C'est quand on est sorti un peu de son propre labyrinthe.
Ouais. Vous êtes libre, mais vous êtes toujours enfermé. Et vous devez y retourner ?
Oui.
Ouais. En tout cas, merci d'avoir été notre invité. Merci Brigitte Psy.
Merci.
Merci beaucoup. Merci Reda Kateb. Ça va bien sinon ?
Ça va, pas mal.
Django, on est où ? Django Reinhardt.
Django, il est prêt.
Il est prêt.
Il attend de venir vous voir un de ces jours. Là.
Ouais, 2017
ouais. Oui, absolument. Ouais.
Ah ouais. Peut-être au Festival de Cannes ? On ne sait pas encore.
Je ne saurais pas vous dire. Je m'en occupe pas, mais en tout cas, ce sera pour 2017. Ouais.
Et puis, il y a un autre film, j'oublie pas, Reda Kateb, que j'ai vu à Sarlat.
Oui, qui s'appelle Les Derniers Parisiens.
Absolument. Et qui sort quand ?
Qui sort 23 février, il me semble, ou 22 février.
Voilà, comme ça, il ne faut pas oublier les films de Reda. Merci Brigitte Lefty.
Merci à vous.
Merci beaucoup Reda d'avoir été avec nous. Et merci Khaled, merci Reda.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, au revoir.
Dans un instant, on poursuit cette émission.
Séance radio, faites le court-métrage en direct du Carreau du Temple.
Et nous sommes toujours dans cette belle fête du court-métrage avec beaucoup de monde autour de nous. Alors, Thomas Le Sourd, si vous deviez vous définir par rapport au court-métrage, vous diriez quoi ?
Oh,
vous êtes un fan.
Oh my God.
Ah si.
Je suis quelqu'un qui regarde quasiment pas de court-métrage.
C'est vrai ?
Dans la vie. Ouais. Alors que je travaille pour un festival de court-métrage, je fais beaucoup de festivals de court-métrage, j'aide beaucoup à de la production, à des ateliers de création de court-métrage un peu partout autour du globe. Donc j'aide beaucoup les gens à faire des court-métrages et j'en produis moi-même, même si j'ai tendance à m'en éloigner quand même. Mais effectivement, moi je viens plutôt quand même à la base de l'univers du long-métrage, des romans de 1500 pages d'Heroic Fantasy et des jeux vidéo qui mettent 200 heures à se tourner. Et du coup, je fais des courts-métrages qui sont dans des univers interconnectés. Parce que j'aime quand même les histoires qui ont de l'ampleur. J'aime les sagas, j'aime tout ça.
Oui, donc, mais alors qu'est-ce qui vous rapproche du cours ?
Qu'est-ce qui me rapproche du cours ? J'aime que dans le cours, les choses tournent rarement autour de la notion d'argent.
Ouais.
J'aime,
c'est vrai ça ?
Oui, non, mais ça, c'est même vrai, parce que j'ai une rare personne que je connaisse à refuser de l'argent pour faire des films.
Ah oui, d'accord, carrément.
J'aime effectivement que l'énergie créatrice qu'il y a autour, et je trouve effectivement que c'est un milieu qui est beaucoup moins bouffé par les enjeux financiers que l'univers du long. Mais effectivement, après, ma passion va plutôt pour le cinéma indépendant que pour le court ou le long, en fait. C'est plutôt une envie de liberté qui est plus facile à trouver dans le court. Même si je suis en train de... Effectivement, moi, je fais des courts, mais qui sont interconnectés et qui finissent par devenir des longs quand on les met tous ensemble.
Mais alors, moi, je suis critique cinéma, monsieur cinéma sur une autre radio, et évidemment sur Séance Radio aussi. On ne voit pas beaucoup de cours. Quel est le problème des cours par rapport au long ? Je fais exprès ma question de naïf.
Alors, ouais.
Mais vous êtes producteur, vous dites de certains courts-métrages. C'est pas frustrant qu'ils ne soient pas projetés comme dans le temps. Moi, quand j'étais jeune, on voyait des courts-métrages carrément avant les longs, et le court-métrage était accepté. Et là, il faut aller quoi ? Sur Canal Plus pour les voir, il faut aller dans des festivals.
Il faut aller sur YouTube, il faut aller sur Vimeo. Il y a des millions. Il n'y a jamais autant de personnes qui ont regardé des courts-métrages qu'aujourd'hui.
C'est vrai.
Puisque
grâce à Internet,
à l'heure où on se parle, grâce à Internet.
Ouais.
Et moi je suis pas. Les écrans ont effectivement diminué
grâce à Internet,
et se sont démultipliés.
C'est ça. C'est plus forcément sur grand écran dans les salles, mais.
Voilà. Moi je vais très rarement en salle, hein. Par exemple je vais voir deux longs métrages événements par an.
Ouais, c'est pas bien.
Je suis allé voir le dernier Star Wars. Je suis vraiment le mauvais exemple. En plus, je défends le cinéma indépendant, mais je donne mon argent qu'à Disney. mais c'est vrai que ma consommation de films passe plus tellement par là, et qu'en plus dans le court métrage, je trouve que effectivement il y a une vivacité énorme dans les films autoproduits, dans les choses qu'on peut voir sur YouTube. Enfin, je veux dire, Patrick en est un exemple flamboyant.
Bonjour. Bonjour.
Je ne sais même pas s'il y a un seul festival qui passe tes films. En fait, tu n'envoies pas tes films en festival.
Non, c'est terminé ça. Ouais. Mais en fait, moi, j'aimerais rajouter que le court-métrage maintenant prend tout son sens depuis l'arrivée d'Internet et les sites de diffusion comme YouTube. Vous vous demandiez si les gens voyaient encore du court. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des Occidentaux, parce que c'est ceux que je connais le plus, là, mais la plupart des Occidentaux, surtout jeunes, en bas de 30 ans, voient beaucoup plus de courts-métrages que de longs-métrages.
C'est vrai.
Ah, absolument. Donc, je pense que ça prend tout son sens. Et enfin, la personne qui décide de faire un court-métrage n'est pas tributaire de la décision des gens qui organisent des festivals pour être vu ou pas.
Ouais.
Il suffit d'aller chercher son public, de trouver le moyen de l'attirer, puis ça y est, c'est...
Alors, vous êtes du Québec?
Moi, je suis... Ouais. Je demeure à Montréal.
Vous demeurez à Montréal. Et je vois sur mon petit aide-mémoire que vous êtes un homme orchestre du court-métrage et vous avez eu 333 millions de vues sur Internet. C'est
ouais,
vrai, ça?
Ouais, ouais.
Incroyable. Ouais, bah, avec vos courts-métrages.
Uh-huh. Ouais. Moi, je vis de courts-métrages depuis quelques années. Grâce à Internet, je vis de courts-métrages.
C'est ça.
C'est ce que
vous
gagnez
votre vie comme ça.
Et je la gagne très bien. Grâce au court-métrage. Et vraiment, et c'est pas le cas en long-métrage, spécialement.
Mais comment on peut bien gagner sa vie avec des courts-métrages?
Parce qu'il y a plein de façons de faire de l'argent avec les courts-métrages sur Internet. Maintenant, moi, en fait, je suis sponsorisé par plein de compagnies.
Ouais.
Donc, il y a plusieurs courts-métrages que j'ai faits qui étaient des commandes un peu pour aider à promouvoir un produit, mais qui n'est pas forcément
de la pub,
packagé
tout court,
comme une
ouais,
pub. Voilà. Exactement. Et donc, c'est. Puis on me laisse souvent libre cours. Je peux choisir l'histoire que je fais et puis l'attaquer comme je veux.
Ouais.
Donc, déjà, ça, ben, je suis payé pour ça. Puis également, il y a toute une synergie qui se crée autour d'un individu sur Internet en général. Comme par exemple, moi, Facebook, j'y suis pas, mais sur YouTube, j'y suis depuis longtemps. Puis, j'ai un public maintenant, ce qui fait que les trucs que je fais sponsorisés, bien évidemment, j'ai des sous, mais ça continue à créer cette synergie qui attire les gens vers les trucs que je fais qui, eux, sont pas payés, mais qui finissent par être payants, parce que sur le web, ce qu'on y met, on peut être payé par les revenus publicitaires.
Mmh.
Donc, et j'ai fait des longs pour lesquels j'ai dû payer. Alors, au Canada, le marché du long-métrage, c'est difficile d'y gagner sa vie. Alors qu'en court-métrage, ben, on développe une approche qui nous permet de faire un paquet d'autres trucs, comme du vidéoclip, comme de la publicité, et c'est de cette façon-là qu'on arrive, nous, du moins au Canada, à gagner notre vie, là.
Thomas Le Sourd, vous êtes d'accord avec ce que dit
Ah oui, complètement. Complètement. Ouais. Il y a vraiment des gens qui réussissent à créer des économies. Parce que là, on a aussi notre ami Johan Faure. Là, je sors d'une autre conférence avec lui, qui avait fait son fan film de Dragon Ball, Fall of Man. Alors lui, je ne sais même plus à combien de millions de vues il est sur sa vidéo. Du coup, on ne peut pas dire que les gens ne regardent pas de court-métrage. Parce qu'effectivement, en termes de...
Alors, il faut faire le tri. Parce que si tout le monde peut faire des courts-métrages, il y a du bon et du moins bon.
Ça,
non.
Ouais, mais il faut faire le tri au cinéma aussi, hein.
Ouais.
C'est exact. Non, mais c'est partout pareil. Et puis donc, à partir du moment
c'est vrai
où...
qu'il faut faire le tri au cinéma.
Oui,
je suis payé pour le dire.
Mais au cinéma, en général, on se met à suivre un auteur, on se met à suivre des acteurs, c'est la même chose sur Internet. Ouais. C'est pareil. Et évidemment, ben, on peut passer une semaine sans voir un truc de qualité, même si on en écoute plusieurs par jour, puis tout à coup, on tombe sur une perle, puis. Et c'est un nom à retenir.
Il y a beaucoup, en plus, de sites spécialisés, de chaînes YouTube qui critiquent les autres, etc. Donc, après, mais comme avec des revues de cinéma ou des émissions, on trouve après les critiques qu'on aime bien, ou les guides qu'on aime bien, ou les familles, ou les forums, ou les. Et on tombe. Moi, je suis abonné rien qu'avec ma page Facebook, en fait, où je suis globalement abonné à énormément de pages comme ça, et où, en général, les films que ces gens-là me proposent, je sais qu'ils vont plaire, donc j'ai déjà une base. Puis après, effectivement, en notant le nom des auteurs, en général, quand on aime bien le film de quelqu'un, on va voir les autres et on se rend compte que c'est bien aussi.
On n'a même plus besoin de noter maintenant, de toute façon.
Ouais, on clique sur les liens, puis on arrive...
Alors, ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, Thomas, tout à l'heure, c'est la liberté aussi. Et je pense que Patrick est d'accord avec ça, c'est que on sait comment fonctionne, en tout cas en France, l'économie du long-métrage. Et on sait par qui les longs-métrages sont commandés souvent, sponsorisés, il y a la télévision, etc. Donc, il y a quand même des limites.
C'est onéreux, le cinéma, puis c'est difficile. En fait, prendre des chances sur un long-métrage, c'est beaucoup plus difficile que prendre des chances sur un court. Et un budget de court, ça peut être ridiculement petit. Ce qui n'est pas souhaitable, c'est toujours bien d'avoir quand même un budget raisonnable à la minute, je dirais. mais c'est quand même des chances plus faciles à prendre, parce que si c'est un échec, ça a coûté moins cher. Il y a beaucoup de longs métrages par année qui sont faits, qui sont des échecs et qui coûtent des millions. Donc, et j'ai rien contre le long métrage, j'en fais, je veux en faire, j'aime ça, c'est vraiment. Mais pour moi, le court métrage, d'abord, le court métrage, pour moi, c'est pas l'école du long, c'est deux choses. Vraiment, j'ai toujours vu ça comme ça. C'est presque un médium à part, parce que le format est complètement différent. On peut s'éclater beaucoup plus qu'en long métrage, parce qu'en général, il y a des approches qu'on peut avoir en cours qui seraient insupportables au-delà de 10 minutes, d'une heure.
Ah oui, c'est ça.
Mais on peut essayer. Un truc de 5 minutes complètement éclaté, ça, on peut avoir énormément de plaisir à l'écouter. Mais il y a des films, des fois, qui essaient d'éclater la forme, puis ça devient inécoutable au bout d'une heure, là.
Et puis le long métrage, il faut aussi... Alors ça, c'est le revers de la médaille. Peut-être certains vont dire, oui, mais le court métrage, c'est... Il y a la facilité, comme on fait court, il suffit d'avoir une, deux, trois idées, on peut dire 4, 5, 6 minutes.
On peut être un très mauvais scénariste et faire un très bon court-métrage.
Oui, c'est vrai.
Ah, ça, c'est intéressant ce que vous dites.
Alors que faire un bon long-métrage, il y a un moment où il faut apprendre à faire une structure.
Il faut tenir, voilà. Il faut tenir pendant 1h20, 1h30, 1h40, 1h50.
Un film d'une minute avec un bon gag, il y a juste besoin d'avoir un bon gag, et ça peut être un chef-d'œuvre du gag.
D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est vrai, c'est que le long-métrage est beaucoup plus axé sur le scénario. C'est vraiment important et bon, ça en souffre souvent.
Ouais.
Mais un court-métrage, une bonne idée, bien exécutée, voilà.
Mais vous disiez Thomas Lesourd, ça m'a frappé parce que moi j'ai vu, je vais dans des festivals et c'est là que je vois les courts-métrages. Dans tous les festivals de cinéma, il y a souvent des courts-métrages. Au Festival de l'Alpe d'Huez qui se tient en janvier, il y a des courts-métrages de comédie. Et je vois d'excellents courts-métrages et parfois j'en vois des moins bons où justement c'est simplement une idée de gag. Et ça c'est un peu léger quand c'est une histoire drôle que vous avez entendu raconter dans la vie il y a 20 ans et le type il a fait son court-métrage juste à travers d'une
histoire
drôle.
J'en ai vu plus d'un film où j'avais déjà vu. La blague dans une bande dessinée, on
c'est
dit
pas
mec,
ça pour moi le court métrage.
Tu t'es pas foulé, hein,
c'est
arrive,
pas ça.
Mais je ferais un parallèle avec ce que vous venez de dire. Un humoriste qui raconte une blague, s'il la raconte bien, tout le monde en rit. Puis si le lendemain, moi j'essaie de la raconter au bureau, il y a personne qui va rire parce que j'ai pas le tour.
Il y a quelques films comme ça.
C'est ça, faut que ça soit bien exécuté. Puis ça, c'est une maîtrise qui se développe en faisant. Et
vos courts-métrages, Patrick Bohemin, vos courts-métrages, vous les faites sur combien de temps? Parce qu'il y a court et court, il y a des courts de 3 minutes, il y a des courts de 20 minutes, et c'est pas la même chose déjà. Hein?
Non, c'est vrai. Ça varie beaucoup. Moi, en fait, les ceux que j'ai faits qui étaient au-delà de 20 minutes, c'était une catastrophe en général. J'essaie de me tenir loin de ça. Parce qu'encore une fois, souvent, le court-métrage, c'est une idée qui peut difficilement s'étirer. Et quand on essaie, des fois, ça étire la sauce, puis c'est plus bon. Mais quand je faisais le tour des festivals il y a quelques années, j'avais une moyenne, je dirais, de 10 minutes. Là, je suis plus autour de 1 à 2 minutes en général.
Ah, carrément?
Ah oui.
1 à 2 minutes.
Puis j'en fais plusieurs dans une année, je peux en faire 25. De 1 à 2 minutes, puis ça... Ouais. Donc, ça s'exécute rapidement aussi.
Une dernière question, Thomas Lesourd. Patrick Bohemin vient de nous dire qu'il gagne bien sa vie avec le court-métrage. Il est au Québec, à Montréal. Est-ce qu'en France, c'est la même chose ou est-ce que c'est pas un peu plus difficile quand même? Parce que moi, j'entends pas dire que le court-métrage est... Alors, évidemment, maintenant, il y a Internet. Internet, c'est extrêmement important. Mais jusqu'ici, ceux qui ne regardent pas des courts-métrages sur Internet ont du mal à les voir en salle, quoi. C'est ça.
En salle, à long terme, c'est même foutu pour le long métrage. Il faut être quand même honnête. D'ici 20 ou 30 ans, tout le monde l'a prévu. Ouais. Même Hollywood est déjà en train de s'adapter à ça, puisque eux font des films, justement leur fameux univers étendu, les Star Wars, etc. C'est fait parce que eux réussissent à continuer à faire des films parce qu'ils vendent des mugs entre les deux films. Ouais. C'est avec l'argent des t-shirts, des mugs et des jouets qui font de l'argent. Mais à terme, il y a de moins en moins de gens qui vont vers les salles. Et les salles deviennent de plus en plus des méga événements, ce que font les Marvel et les Star Wars, mais qui sont plutôt comme des méga spectacles de Broadway. Mais sinon, l'orgie de long métrage là qui arrive dans des salles qui sont de moins en moins visitées, on sait qu'il y a un moment où ça va s'écrouler. Et après, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est triste ou pas, j'en ai pas la moindre idée.
Ouais.
C'est juste que la technologie avance et puis c'est pareil, on a arrêté d'écouter de la musique sur des vinyles et puis on a arrêté les CD et puis. Peut-être qu'à un moment, on repassera encore à autre chose. Les choses se dématérialisent. On commence à avoir en plus, en VR, on peut commencer à avoir des écrans gigantesques. Voilà. Après, la salle devient de plus en plus un endroit où je pense on va retourner au spectacle, moi je pense.
Ouais.
Il va falloir que le cinéma redevienne un spectacle, très certainement. Mais est-ce que c'est triste ou pas
Non, je dis pas non. Que c'est triste. Oui, mais oui. Vous, en tout cas, tous les deux, merci d'avoir été dans cette émission, dans Séance Radio. Merci Patrick Boisman, merci Thomas Lussault. Vous êtes optimiste, ça fait plaisir.
On est plus
vivant que jamais.
On est sur Internet et on est content.
Très bien.
À bientôt.
Enchanté. Merci. On se retrouve dans un instant.
Séance Radio, faites le court-métrage en direct du Carreau du Temple.
Bonjour.
Et nous sommes avec nos nouveaux invités. Salut Yann. Yann Kounon, grand réalisateur.
Bonjour.
Et Romain Nguyen, bonjour.
Bonjour.
Alors, la parole d'abord, avant de présenter Yann, mais tout le monde le connaît. Moi, je sais que j'ai fait une très belle émission avec lui, secret de tournage sur Doberman. C'était fascinant et passionnant. Roland, parlez-nous de cette fête du court-métrage. Vous êtes heureux parce que c'est vraiment... tout est consacré au court-métrage et il y a beaucoup de monde.
Tout est consacré au court-métrage, mais au cinéma aussi.
Au cinéma. Le court-métrage, c'est du cinéma.
Oui, mais c'est un hommage au cinéma. La preuve, c'est que Yann
est là.
Yann est là.
Tout à l'heure, on a vu Reda Kateb.
Voilà, réalisateur de court-métrage, mais de long-métrage.
Absolument.
Voilà, et donc, ça se passe bien. Ça fait depuis hier soir. Et c'est jusqu'à dimanche soir.
Absolument. Avec, en plus, plein d'endroits en France. On en a parlé tout à l'heure. C'est une vraie fête.
Absolument.
Alors, c'est à vous que je pose la question, parce que vous êtes un grand professionnel. Ça fait 45 ans que vous travaillez dans ce milieu-là. Je ne vais pas trop vous dire. Moi, la même chose, hein, vous inquiétez pas. C'est quoi le court-métrage aujourd'hui en France? Vaste question, mais... parce que là, on vient d'avoir deux invités.
Le court-métrage, si je peux me permettre, c'est la potion magique dans le cinéma.
C'est-à-dire?
Parce que c'est ça qui donne l'énergie, l'inspiration, le pep, c'est tout, et qui c'est une pépinière, et c'est la poche de résistance, l'exception culturelle dans le cinéma français.
Ça, c'est drôle, parce que le cinéma, normalement, devrait être une exception culturelle par rapport au reste du monde, et là, le court-métrage est une exception culturelle par rapport au reste du cinéma. C'est bien dit.
Oui,
c'est
parce que vous savez qu'il y a plus de festivals en France que de jours dans l'année.
Ouais. Hein,
qu'il y a plus d'argent, disons, dans les festivals de court-métrage comme les festivals de long-métrage.
C'est vrai?
Oui, c'est-à-dire que dans les festivals de long-métrage, les distributeurs estiment que vous avez l'argent pour venir.
Ouais.
Alors que dans les courts-métrages, vous êtes invité à venir parler de vos œuvres. Voilà.
Et alors le court-métrage, mes deux invités, la Patrick Boisman qui vient du Québec et Thomas Lesourd, disaient que grâce à Internet, grâce à YouTube, maintenant le court-métrage est vu par des millions de gens et qui se porte très bien. Vous êtes d'accord avec ça?
Moi, je suis...
En tout cas, pour le Québécois, il m'a dit qu'il gagnait très très bien sa vie avec les courts-métrages.
Moi, je suis d'accord avec, disons, la philosophie Internet.
Ouais.
Pour moi, quand on va sur Internet, il ne faut plus penser aux droits. Et je conseille aux jeunes de faire des 2-3 minutes, mais aller sur Internet et oublier le format classique télévision, parce que vous allez ramer pendant des années pour essayer de promouvoir votre film. Alors que si vous allez sur Internet, si vous avez l'imagination et l'audace, vous allez faire votre carte de visite qui peut très bien être ensuite
repérée.
Comme ça. Voilà.
Yann Kounon, avant de devenir le réalisateur que vous avez fait pas mal de courts-métrages, quoi, une dizaine, une douzaine?
Oui, si on inclut les films d'école, à peu près ça.
Vibro Boy, je me souviens.
Oui, Vibro Boy, ça, c'était... Voilà, c'était plus là, j'avais quitté l'école. Non, c'est, les films sortis des Arts Déco, puisque j'en avais fait quand j'étais aux Arts Déco de Nice, 3-4 courts-métrages. Et quand je suis sorti, j'ai fait le premier, c'était Gisèle Kérosène en 88.
Ouais.
Après Vibro Boy, le dernier Chaperon Rouge, Capitaine X. Voilà, j'ai fait une série comme ça de courts avant de faire du long-métrage, ouais.
Et c'était quoi pour vous le court-métrage à cette époque?
Ben, le court-métrage, moi je suis assez d'accord avec ce qui se dit. Le court-métrage reste un truc formidable et il y a vraiment qu'en France qu'il y a vraiment un vrai soutien aussi. Enfin, en France, il y a quand même un vrai soutien, hein. À la fois des chaînes, ou en tout cas à l'époque où j'en ai fait, avec Canal à l'époque, les programmes courts, De Grève, tout ça. Il y avait vraiment comme ça, cette pépinière qui était soutenue à la fois... Et aujourd'hui, c'est toujours le cas vraiment avec le CNC et les aides. Et puis maintenant, il y a beaucoup plus d'aides de régions et tout. Donc, c'est quoi le court-métrage? C'est un espace où ceux qui vont vous donner des crédits, ils estiment que votre film a une valeur artistique. On ne se préoccupe pas de box-office, on se préoccupe de faire naître des artistes et des histoires qui valent le coup d'être racontées. parfois, le cinéma ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Ouais. Vous passez à la case supérieure, vous êtes dans une industrie, et à un moment donné, il y a un investissement. Là, non, là, il y a quelque chose d'assez pur dans le court-métrage. Donc moi, le souvenir que j'en ai, la joie que j'en ai, j'apprends mon métier parce qu'on est des artisans. Donc le long-métrage, c'est construire un building très compliqué. Si on est architecte, il vaut mieux commencer par une série de cabanes sympathiques à faire et de petites bâtisses, etc., pour voir un petit peu fonctionner avec tous les corps de métier. Et donc, acquérir un savoir-faire. Et puis raconter des histoires qui parfois vaut mieux raconter une bonne histoire. Il y a une histoire qui est formidable, mais c'est au-dessus de 3 minutes, elle est beaucoup moins intéressante.
C'est ce que disait
elle a le droit de vivre, non ?
Patrick Boivin ou Thomas Lesourd, Roland Guyenne.
Oui, moi je voudrais insister sur le fait que lutter contre un préjugé qui dit que le court-métrage n'est pas vu.
Oui.
L'audience minimale, c'est 200 000 personnes. Minimale, ça peut atteindre 1 million.
Mais dans quel.
Dans une case à la télévision.
À la télévision.
Quelle salle de court-métrage fait 200 000 entrées en une seule séance ?
C'est exact.
Donc la télévision est une salle de cinéma qui fait au minimum 200 000 personnes en une seule séance.
Mais toutes les chaînes ne consacrent pas une partie de leur programme au court-métrage quand même, qui Arte, Canal...
Attendez, il y a Arte, France Télévisions, France 2, France 3, Arte, Canal, et puis il y a les chaînes aussi comme Comédie... la chaîne policière, là, je ne me souviens plus. Là,
de 4e rue, la 13e rue.
13e rue. Et puis, il y en a d'autres. Enfin, je veux dire...
Des horaires trop décalés.
Bah, écoutez, quand j'étais en fonction, c'était pour des insomniaques et des...
Ah, c'est ça.
Noctambules. Mais bon... Doutais. Mais non, mais attendez. C'est en train de changer, quand même. Ouais. Parce qu'il y a Internet.
Oui, absolument. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas vu énormément de courts-métrages dans ma vie, mais j'ai vu des pépites, j'ai vu des petits bijoux, j'ai vu des chefs-d'œuvre en court-métrage. Alors, Yann Kounen, réalisateur de Long, vous parliez d'une idée, c'est vraiment une approche différente d'un court-métrage d'un long. Vraiment. D'abord, est-ce qu'on a plus de liberté ? Apparemment, oui, parce que ce n'est pas une industrie, donc il y a moins de pression. Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes passé au long, vous referiez des courts-métrages pour l'amour de l'art ?
Donc oui, il y a cette sensation de liberté beaucoup plus... On est beaucoup plus... On est tous là pour la même idée, c'est de faire un film, et en général on est peu payé, voilà, on bricole, on met tout dans le film, on fait au mieux, donc il y a vraiment cet élan de ce point de vue-là. Alors, moi j'ai continué à faire des courts-métrages, j'en ai fait un il y a 2 ans je crois, qui était alors c'était dans un long-métrage à sketch qui s'appelait Les Infidèles, j'ai fait un segment.
Oui, je me souviens.
Voilà, mais après... Mais
qui n'est pas passé
au cinéma, c'est peut-être un peu trop bizarre, ou en tout cas, mais qui est dans le DVD, qui s'appelle version intégrale, voilà.
Ouais. Dans intégrale des Infidèles, ouais, il y a le court-métrage.
Il est remis dans le film à sa place, c'est la version intégrale du film artistique.
Quand vous dites trop bizarre, il est plus.
Non, c'est juste que je pense c'est que le film était un petit peu trop long, donc à un moment donné, ça posait des problèmes. Il fallait qu'ils le réduisent, donc ils enlèvent un film. Donc c'est le mien qui était un peu différent des autres.
Un peu déjanté. Un peu plus déjanté.
Voilà, qui est passé à la trappe. Mais peu importe, en tout cas, j'ai fait un court-métrage, je me suis marré à le faire, c'était vraiment bien. Et là, c'était dans l'économie d'un film, donc c'était encore. C'est très agréable de faire un film qu'en une semaine, c'est toujours épuisant de tourner. Donc là, on a une semaine. Si on est avec une belle équipe, ce qui était le cas, pendant une semaine, quand on commence à être fatigué, on arrête. C'est formidable, parce que normalement, quand on commence à fatiguer, il vous reste 3 mois, 4 mois de tournage. Et le film précédent que j'avais fait, c'était pour les NAS, c'était pour qui s'appelait 8, c'est un film à sketch aussi. C'est un court-métrage, il y avait Jeanne Campion, Gaspard Noé, Gus Vincent, Wim Wenders. C'était vraiment un très beau film sur les goals des Nations Unies pour réduire la pauvreté, enfin les objectifs qui ne seront jamais tenus, hein, de toute façon. Mais c'est intéressant justement de faire des films artistiques autour de ça. Et moi, j'avais fait un film en Amazonie, en langue indigène, en noir et blanc, en 35 mm, où on avait carte blanche. Donc, si tu veux, là, tu retrouves cet esprit où tu pars tourner, tu ne sais pas comment, tu es dans un espace où tu as un cadre qui est financier bien sûr réduit, mais tu as une liberté de faire un film qui a 10 minutes, non, il aurait plutôt faire 20. Voilà, et toutes ces contraintes qu'on a dans le long métrage, quand même, de durée, de budget, de cadre, de scénario, dans le court métrage, on a encore un espace formidable de création pendant. On peut changer pendant, parce qu'on est tous à bord d'une aventure qui est d'aider une histoire à émerger et de travailler. Et s'il faut d'un coup changer l'histoire, parce que sur le plateau, on découvre qu'il y a quelque chose de vraiment mieux, ce qui est parfois difficile à faire en long métrage, hein, parce qu'on a des comptes à rendre, ce qui est normal aussi. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette idée du court métrage, et franchement, s'il y avait une industrie un peu plus puissante, enfin quelque chose qui nous permettrait plus facilement pour les réalisateurs qui ont donné déjà 10 ans de leur vie au court métrage, comme c'est moi, et qui remercient le court métrage d'avoir appris le métier, enfin des beaux films qui tournent, et d'avoir permis de faire des longs métrages. Mais s'il y avait une vraie industrie encore qui permettait d'en fabriquer, moi je pense que je ferais 3-4 courts-métrages avant de refaire un long-métrage, ou 4 ou 5, parce que c'est agréable de faire des petites histoires, et plus libre. Voilà.
Alors, ma question, Alain Nguyen, vous qui voyez beaucoup de courts-métrages, il faut faire un tri, je pense, parce que, bon, il connaît le métier, Yann Kounon, mais il doit y avoir plein de gens qui... On peut rentrer comme ça, dans le court-métrage, en faisant son propre petit film sur son iPhone, et tout d'un coup débarquer sur YouTube, et arriver avec des qualités. Vous voyez des belles choses qui viennent de partout.
Bien sûr. L'an dernier, je ne me souviens plus du prénom, mais... un type qui avait fait genre la guerre des étoiles, mais sur Internet.
Ah oui, carrément.
C'est Yann Faure, je crois.
Ouais.
Et voilà.
Ah là, c'était pas un cours, si c'était la guerre des étoiles.
Si, c'était, non, mais justement, c'était une phase traitée façon cours, avec des petits moyens, inspirés de la guerre des étoiles.
Ouais.
Et c'était formidable. Non, mais les jeunes, ils n'ont pas les mêmes schémas.
Oui, nous, les mêmes vieux schémas.
Les mêmes vieux schémas, et donc ils sont audacieux. Voilà. Bon, bien sûr, on peut se planter, hein. Mais bon, il faut essayer, c'est ce que je leur dis. Essayez, ça coûte pas cher. Lancez-vous, plutôt que de passer 10 ans à essayer de monter un projet de court-métrage de fiction qu'on n'arrivera pas à monter, et pendant ce temps-là, bah, on a perdu 10 ans de sa vie.
Et Yann Kounon regrettait que... Non pas que ce soit pas défendu, parce qu'il a bien dit qu'il y avait quand même de l'argent, des supports, le CNC, etc. Mais que ce soit pas une industrie où on puisse vraiment être à l'aise comme ceux qui sont dans le cinéma sont à l'aise. Si on peut dire qu'ils sont à l'aise, parce que c'est pas évident.
Je crois que si des partenaires financiers comme BNP Paribas Vivendi soutiennent cette manifestation, c'est parce qu'ils voient l'intérêt économique quand même du court-métrage, qui est générateur de... dans les régions, dans les tournages, quand même.
Ouais.
Non, mais c'est un vrai tissu économique, le court-métrage. Hein. C'est un préjugé, moi, contre lequel je lutte, parce que...
Mais est-ce que ça va mieux qu'avant, vous qui suivez le court-métrage depuis pas mal d'années?
Moi, je pense
qu'Internet a amené vraiment quelque chose.
Moi, je pense qu'Internet a bousculé les codes et a enfoncé des portes, et on ne peut plus faire sans Internet.
Ouais.
C'est-à-dire que les sociétés d'auteurs et les syndicats de producteurs ne sont peut-être pas là, mais moi, je lutte contre l'idée de dire « Ah, mais Internet, on perd des droits. »
Oui.
Laissez tomber.
Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Kounon ?
Non, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué, le monde du long-métrage, c'est compliqué. Le cinéma, il y a un gros coup de froid quand même sur la créativité, l'argent dans le cinéma et tout
c'est
ça.
C'est clair.
Les distributeurs en souffrance et tout, on est un peu à l'hôpital, le cinéma français en ce moment quand même. Mais... ce qui est formidable pour les jeunes, parce qu'on se dit toujours, mince, quelqu'un qui veut faire des longs métrages aujourd'hui, il est quand même un petit peu dans la panade, parce qu'on produit que des trucs sécurisés, ouais, absolument. Mais d'un autre côté, ce qu'il y a de formidable, c'est de se dire que nous, à l'époque où on commençait, bah, c'était compliqué, il fallait comme des caméras en pellicule, etc. Puis après, il y avait la diffusion, qui était aussi bon, des festivals, etc. Aujourd'hui, on peut faire un film avec son téléphone, le monter, faire des trucages, faire un truc bien si on a une bonne idée, donc il y a la créativité. Et on peut le diffuser dans le monde entier en le mettant sur Vimeo, YouTube ou quoi que ce soit. Donc quand même, et si le film perce tout ça, il y a quand même des tas de gens qui émergent comme ça du truc. Donc il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus difficile, mais les canaux existent mieux, je dirais. En fait, ils sont accessibles depuis chez vous. Donc voilà, faut vraiment se triturer les méninges, ou être soi complètement, prendre des risques, faire quelque chose, mettre de l'énergie. Mais par contre, derrière, on est sûr d'avoir de la diffusion, et c'est pas très compliqué de le... Forcément, hein, si on a trouvé la bonne idée, c'est moins compliqué de le fabriquer aujourd'hui qu'il y a 5 ans.
Alors, Alain Nguyen, Yann Kounon, il y a un invité qui vient de s'asseoir à notre table. Vous présentez-vous?
Johan Faure.
Eh bien, voilà.
Ah, voilà. Je te parlais de ça.
C'est incroyable. Regardez le destin.
Voilà.
Vous me rappelez ici.
Alors racontez-nous.
Bah, oui, justement, c'est exactement ce que vous disiez. Bonjour, d'ailleurs. c'est justement ça. C'est à un moment donné, quand on veut faire un film, autant se lancer, le faire et le diffuser sur YouTube. Et nous, il est sorti il y a un an, on a eu 21 millions de vues. Et le film fait 30 minutes, et 30 minutes, 21 millions de vues sur YouTube, alors que les gens consomment du 3 minutes ou comme ça, c'est assez cool. Donc, on est
et c'était quoi l'idée ? Moi qui n'ai pas vu.
Le film s'appelle The Fall of Man et c'est l'adaptation d'un manga. Donc c'est pas,
c'est pas la guerre des étoiles.
Voilà, c'est pas Star Wars, mais, ouais, mais c'est pas loin.
C'est pas loin.
C'est Dragon Ball Z. C'est un manga.
Oui, je connais.
J'étais
mon fils.
Fan. Bah, voilà.
Ouais, mon fils lisait ça.
J'étais fan quand j'étais gamin et en fait on a adapté ça avec Vianney Griffon et on a fait ça en film en live. Et le film a tourné à travers le monde et jamais on aurait pu le faire dans des circuits plus classiques si on se lançait pas à un moment donné. Mais c'est comme vous disiez, c'est genre ne pas dormir pendant 2 ans et demi et dormir sur un canapé et bosser tout le temps dessus, voilà, sans avoir de vie, quoi. Mais bon.
Mais alors, pour un jeune comme vous, par exemple, vous avez quand même gagné un peu votre vie à travers ces vues. Comment ça fonctionne?
Ça a été un choix aussi fait comme ça. C'est que c'est un film fait vraiment pour l'art et il est gratuit sur Internet pour que tout le monde puisse le voir et on gagne pas d'argent là-dessus.
Mais tu as été contacté, je crois, par des Américains, non?
Oui, il y a 3 grosses boîtes avec qui on a échangé, mais juste des échanges.
Oui, non, mais c'est un début.
Oui, non, ouais, c'est très, très, ça faisait très plaisir d'avoir ça dans la boîte aux lettres.
Mais c'était quoi, qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer? Qu'est-ce que vous pourriez accepter si vous êtes un pur et dur?
Moi, Star Wars, c'est bien.
Il y a des épisodes à venir, hein, ouais, voilà. Avec les spin-offs qui arrivent là de Rogue One, il y en a des dizaines qui vont venir. Dans 5-10 ans, ça va arriver. On va vous contacter.
Kennedy, écoute la radio, je suis dispo. Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je sais pas, de produire mon premier long, c'est déjà bien.
Ouais.
Donc voilà.
Donc vous êtes un exemple, un bel exemple, hein, Yann Kounen, de ce qui peut arriver grâce au
l'exclusivité, l'année dernière, l'édition, la fête du court-métrage.
C'était la première en France, ça a été ici. Ouais.
Donc on peut dire, ça va être le mot de la fin, que le court-métrage ne se porte pas si mal que ça. Quoi. Si on fait la fête, on a raison de la faire. Voilà, c'est ça, Roland Guyenne.
Moi, ça fait plus de 40 ans, comme vous, je travaille dans le secteur. Et donc, voilà, si je suis toujours là, parce qu'on me dit, tu t'ennuies pas à lire des scénarios? Ben non.
Non.
Toujours là.
Yann Kounen, votre actualité, votre avenir?
Mon avenir. Moi, je suis plutôt en train de mettre le nez dans la réalité virtuelle. Donc, je tourne des films pour les casques. Hein.
Ah oui, voilà. Ça existe déjà, ça?
Alors, on est en train de... C'est assez excitant, comme tout. Donc, voilà. Bien. Après, je développe aussi du classique, comme on dit, des films classiques. Mais là, j'ai pas encore de choses qui sont vraiment en mise en production. Donc... J'en parle pas, mais je suis vraiment là dans 2 films de réalité virtuelle plutôt courts et j'aime beaucoup l'idée d'une nouvelle façon de raconter l'histoire. C'est plus du cinéma, c'est de la VR et voilà. Donc,
mais ça peut déboucher sur quoi pour le grand public, par exemple?
Fou, là, vous allez voir, ça va changer nos vies, je pense.
Ah oui,
ça va être. C'est comme si on vous parlait c'est comme si on parlait de YouTube il y a 10 ans, c'est et ça. On dirait tu pourras voir des films et en mettre. Il y a 10 ans, hein, on entendait le modèle, il faisait comme ça. Il y en avait CompuServe il y a 15 ans, allez, dans 20 ans. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va changer nos vies comme le jeu vidéo. On en est au ping-pong hein, du jeu vidéo, vous voyez.
Le jour où James Cameron va s'y mettre aussi, peut-être qu'il va aussi déployer le truc. Comme la 3D, il a remis au goût du jour.
J'imagine. Il paraît qu'il travaille sur un Avatar 2.
Oh, oui, et 3 et 4.
Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs qui arrivent. Donc, moi, je fais ça en ce moment, mais j'aime bien l'histoire de son court-métrage. Voilà, c'est formidable. C'est se dire que d'un coup, on décide, on met de l'énergie pour faire un film, et 21 millions de personnes, mais il n'y a que Star Wars qui a ça au cinéma. Enfin, pas que Star Wars.
C'est fou.
Par rapport aux 200 000 spectateurs télé. Hein. Voilà, il n'y a pas photo.
Et ce qui est bien, c'est que c'est dans le monde entier aussi. Voilà. C'est vraiment international.
Il y a des gens qui vous écrivent ou qui vous
tous les jours
qui prennent contact avec vous?
Oui, tous les jours.
Pour parler de votre travail.
La boîte mail qui est remplie de commentaires et d'encouragements ou découragements parce que c'est Internet. Donc, voilà.
Ouais. Bah, merci à vous, merci à vous, merci Romain Guyenne, merci Yann Kounen et merci
Longue vie au court-métrage.
Yann Fort. Merci et longue vie au court-métrage.
Retrouvez le grand live de Bruno Kras et ses invités, spéciale fête du court-métrage, en podcast sur séanceradio.com, SoundCloud ou iTunes. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.